L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai autour de la table le collectif de l'éthique sur l'étiquette, Pierre Bourguet, qui représente le Centre Documentation Tiers-Monde et Oxfam dans ce collectif, et Claude Montange du CCFD Terre Solidaire. Alors, pourquoi je les ai invités ? Parce que le vendredi 24 avril, c'est un anniversaire d'une catastrophe dont vous vous rappelez certainement et dont on a déjà parlé sur ces antennes. Alors Pierre, rapidement, rappelez-nous ce qui s'est passé le 24 avril 2013.
Oui, c'est une catastrophe qui s'est produite au Bangladesh, à Dhaka, dans une usine de confection textile, où 1138 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement de cet immeuble. Il y a eu également près de 2000 blessés. Et donc, tout ça en majorité des femmes, il faut dire. 85% des victimes sont des femmes. Et donc, c'est une catastrophe humaine, économique et sociale considérable. Voilà, cet immeuble ne s'est pas effondré par hasard. Il s'est effondré parce qu'il n'était pas construit dans les normes, qu'il était également habité, enfin occupé en trop grand nombre, et que les conditions de sécurité n'étaient absolument pas respectées. Donc c'est un événement dramatique et criminel.
Oui, alors que faisaient ces femmes et ces ouvriers dans ce
industrie et ces hommes travaillaient à la confection textile d'un certain nombre d'habits, des jeans, des t-shirts que nous consommons, que nous achetons, et que via des marques françaises ou européennes comme Auchan, Carrefour, Camailleux, Benetton et d'autres. Voilà, donc il y a les entreprises locales qui sont directement responsables de ce drame, mais indirectement, il y a nos entreprises, nos marques et nos multinationales.
Voilà, alors justement, ça pose le problème de la responsabilité de ces multinationales.
Oui, parce que, en droit international, pour l'instant, il n'y a pas continuité juridique d'une entreprise à l'autre, et ce qui fait que on ne peut pas poursuivre les multinationales qui sont implantées dans des pays
avec leurs filiales et leurs sous-traitants.
Donc on peut attaquer directement l'entreprise, par exemple l'entreprise locale au Bangladesh, celle-là va faire l'objet d'un procès, le patron est d'ailleurs en prison, mais les donneurs d'ordre, les entreprises donneurs d'ordre ne sont pas pour l'instant inquiétées, même si elles sont clairement indirectement, mais clairement responsable.
Alors donc, cela a posé vraiment un problème parce qu'on a essayé d'obtenir des indemnités. Où en est-on ?
Alors, il y a deux choses, la réparation et la prévention. Bon, réparation d'abord pour les victimes et les ayants droit, parce que on ne peut pas, bien entendu, laisser cette affaire comme ça. Donc il y a un fonds d'indemnisation qui s'est créé sous l'égide de l'OIT tout de suite après la catastrophe, en mai 2013. Et ce fonds d'indemnisation est actuellement abondé à hauteur de 21 milliards de dollars. Bon. Or, il en faudrait 30 environ, d'après les estimations. Donc on est encore loin du compte. Et par ailleurs, toutes les entreprises donneurs d'ordre impliquées dans cette affaire n'ont pas souscrit à ce fonds d'indemnisation. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas normal et c'est quelque chose contre lequel nous luttons aux côtés des syndicats et des travailleurs du Bangladesh.
Oui, alors le collectif de l'éthique sur l'étiquette, comment est-il composé ?
Alors, le collectif éthique sur l'étiquette, donc, c'est un collectif national qui existe au niveau national depuis 1995. Il est composé de différentes organisations, des ONG de solidarité internationale, par exemple le CCFD, Comité catholique contre la faim pour le développement, Oxfam, également le Centre de documentation Tiers-Monde, mais aussi des organisations du commerce équitable, Artisans du Monde, mais aussi des syndicats, la CFDT, des associations de consommateurs comme ASECO CFDT, la Confédération du logement et du cadre de vie, et également le Mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté, et l'association Terre des Hommes France.
Oui, donc ça c'est le comité local.
Oui, mais ça reflète bien aussi au niveau national ce qui se passe. Ce collectif, vous voyez, est quand même très large et permet une sensibilisation d'un grand nombre de réseaux. Mais ce que je veux dire sur cette action que nous allons mener le 24 avril, ce témoignage de solidarité avec ces victimes du Rana Plaza, c'est que nous le faisons aussi avec le collectif de la Marche mondiale des femmes. Il y a un autre collectif qui s'est joint à nous, et la Maison des Tiers-Monde et de la Solidarité internationale, bien sûr, puisque le collectif éthique sur l'étiquette adhère évidemment à la Maison des Tiers-Monde et de la Solidarité internationale.
Oui, alors justement, la Marche mondiale des femmes, cette année, va passer par Montpellier.
Oui,
au mois de septembre.
C'est ça, je crois que c'est le 21 septembre.
Et donc, cette Marche mondiale des femmes a bien sûr pour objectif de défendre les droits des femmes.
Ah, oui.
Et c'est pour cela que, comme beaucoup de victimes sont des femmes, comme vous l'avez dit, 85%, cette Marche mondiale, cette année, veut rappeler justement cette catastrophe qui a été une des celles où beaucoup de femmes ont péri.
Absolument, et il y en a malheureusement, c'est pas la première, ni hélas sans doute la dernière. Nous disons maintenant, stop, ça suffit, il faut vraiment réagir, et c'est pour ça qu'on va en parler, un certain nombre d'actions et de...
Alors il faut aussi mentionner peut-être que tous ces ouvriers et ces ouvrières étaient vraiment maltraités aussi sur le plan des conditions de travail, l'avez dit, mais aussi du salaire.
Oui, les conditions de travail très très dures, des heures de travail innombrables, 10, 11, 12 heures par jour, des heures supplémentaires pas payées. Des conditions d'hygiène et de sécurité donc souvent déplorables, avec des femmes qui font des malaises, et puis un salaire de misère. Le salaire minimum au Bangladesh actuellement est de 50 euros. Or, c'est très en deçà, quand il est versé, quand il est...
Mensuel,
oui, 50 euros par mois, c'est le salaire minimum, quand il est appliqué. Ce qui n'est pas... pour lequel on a des doutes... Et par contre, le salaire qui permettrait une vie décente, ce qu'on appelle un salaire vital, je vais en dire deux mots, est estimé par l'Alliance asiatique pour un salaire de base, justement, à actuellement 260 euros. Vous voyez que on est très loin des 50 euros. Donc, même en admettant que les 50 euros soient versés, ça c'est extrêmement loin de suffire et de subvenir aux besoins des travailleurs et de leurs familles. Par conséquent, il y a là une action extrêmement importante, en plus de la
l'indemnisation, oui.
De l'indemnisation qu'il faut continuer à verser. Et, Auchan, vous avez vu, l'année dernière, a accepté de payer, mais Benetton vient de dire finalement qu'il allait payer, mais on ne sait pas combien ni quand. Et il y a encore des entreprises qui n'ont pas du tout dit qu'elles allaient payer. Donc il y a simplement Camailleux et Auchan pour la France qui ont accepté de contribuer, mais il manque encore Carrefour, Leclerc, Casino.
Des grandes marques.
Qui n'ont rien dit, c'est absolument scandaleux. Alors, le deuxième point de la réparation, c'est le volet prévention. C'est le volet prévention, c'est le volet accord sur la sécurité des usines textiles au Bangladesh. Donc il y a eu un accord, là aussi, sous l'égide de l'OIT, pour essayer d'empêcher que de nouveaux drames se produisent. Donc cet accord sur la sécurité des usines textiles au Bangladesh, qui, quand même, il faut le dire, emploie 4 millions de personnes sur place et 60 millions dans le monde, hein, je donne ces chiffres parce que c'est quand même important, cet accord a été signé là par 200 marques, c'est très bien. Là, c'est une bonne avancée, mais ça va être très long. Il y a un premier audit qui a été réalisé et qui a montré une situation lamentable dans 1100 usines. Donc, on est encore extrêmement loin du compte. Donc, ça veut dire que des accidents continuent de se produire, même si, Dieu merci, ils n'ont pas l'ampleur de la catastrophe du Rana Plaza, mais c'est un état absolument lamentable et il faut que tout le monde s'y mette et que on fasse vite. Voilà, donc ça, c'est le deuxième volet des conséquences directes de la catastrophe. Il y en a d'autres, on va en parler.
Voilà, alors vous avez porté un morceau de musique. On va écouter d'abord ce morceau de piano.
Bon, d'accord.
Dans le consortium du déni, il n'y a pas d'accident du travail, de décès, jamais de la vie, et encore moins de funérailles. De funérailles, de funérailles. Quand les gens tombent sur un chantier, quand une usine les ensevelit, on ferme le château à clé, puis on remonte le pont-levis, le pont-levis, le pont-levis, le pont-levis, le pont-levis. En cas de pépin, en cas de souci, elles ouvrent grand le parapluie, elles ne connaissent pas leurs victimes, les maisons-mères indignes, indignes. Certaines grandes compagnies ont la sous-traitance malheureuse et souffrent d'une épidémie de filiales tueuses, 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 tueuses. Elles asservissent les migrants et font travailler des bambins, laissant derrière elles des polluants, quelques déchets et puis plus rien.
Alors, c'est la chanson qu'on a entendue. Je me tourne vers Claude Bourange, qui l'avait apportée. Comment ça s'intitule-t-elle ?
C'est Les multinationales hors jeu. C'est un chant qui a été composé par la Parisienne Libérée et qui dénonce effectivement ces multinationales qui ferment les yeux sur les graves violations des droits humains dans les pays où elles sont implantées par l'intermédiaire de leurs filiales.
Et oui, c'est tout à fait le sujet tout que nous traitons aujourd'hui. Alors, le CCFD Terre Solidaire donc, fait partie de ce collectif de l'éthique sur l'étiquette et il a même lancé une campagne qui s'appelle Hors-jeu.
Des multinationales hors-jeu. Donc, c'est une campagne qui a commencé, on est sur la deuxième année de cette campagne. Donc, elle a coïncidé effectivement avec le drame du Rana Plaza. Mais c'est une thématique qui est développée par le CCFD Terre Solidaire depuis un certain nombre d'années déjà. Puisque le CCFD Terre Solidaire avait été à l'origine de cercles de réflexion parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, de façon à ce que les députés puissent se saisir de cette problématique et puissent travailler sur cette problématique de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises multinationales. Donc on est sur la deuxième année de cette campagne. Cette campagne, en fait, elle porte sur trois points. Alors premièrement, le premier objectif de cette campagne, c'était d'encourager le vote d'une proposition de loi française de façon à ce que les multinationales aient un devoir de vigilance de toutes ces sociétés mères et des sociétés donneuses d'ordre et un devoir de vigilance vis-à-vis des filiales qu'elles implantées dans les pays du tiers-monde.
Oui, alors où en est-on justement sur le plan législatif ?
Sur le plan législatif, alors il y a eu deux démarches, effectivement. Oui. Une première proposition de loi qui a été déposée en novembre 2013 par un certain nombre de députés, notamment du groupe socialiste et écologie, Europe Écologie Les Verts, qui nous satisfaisait assez bien dans le collectif Éthique sur l'étiquette et dans le forum, plus largement le forum citoyen pour la RSE auquel Éthique sur étiquette adhère.
Oui, responsabilité sociale des entreprises.
Voilà. Responsabilité sociale des entreprises.
Le problème, c'est que cette première proposition de loi, qui prévoyait donc une responsabilité, une mise en cause de la responsabilité des multinationales en cas de violation des droits humains et d'atteinte à l'environnement, a été retoquée, arrêté par le gouvernement, on suppose,
en commission des lois.
En commission des lois, mais sans doute sur injonction
oui,
du gouvernement.
Vraisemblablement.
Et donc, elle n'a pas été abandonnée, Dieu merci, complètement. Mais elle a, et donc, il y a une deuxième mouture qui est sortie et qui a été discutée et adoptée le 30 mars, et qui prévoit donc, comme le disait Claude, un plan de vigilance pour les entreprises, un plan de vigilance donc à mettre en œuvre pour prévenir justement les atteintes, les violations des droits humains et les atteintes à l'environnement.
Alors là, c'est l'Assemblée nationale qui, en première lecture, l'a adopté.
C'est ça, on n'est pas encore loin de la fin de cette proposition de loi, puisqu'il faut que le Sénat donc, l'adopte. Alors, bon, le Sénat risque de ne pas l'adopter puisqu'il a changé de majorité, mais ça reviendra à l'Assemblée qui, on l'espère, l'adoptera, peut-être avec des amendements portés par divers députés pour le renforcer, espérons-le, et non pas pour le diminuer. Mais ensuite, il y aura, c'est prévu dans le texte, un décret d'application. Et là, on a aussi quelques craintes parce que les décrets sont parfois un peu en retrait ou limitatifs par rapport à la loi.
Et il tarde souvent à être pris.
Je voudrais quand même rappeler que c'est un texte important, enfin, sur lequel les associations travaillant pour la solidarité internationale se sont battues pour obtenir au moins ce premier texte, puisque ce texte impose aux entreprises d'adopter, comme tu l'as dit, Pierre, un plan de vigilance pour prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement, et que la responsabilité donc des entreprises pourra être engagée devant le juge en cas de manquement à cette obligation de vigilance. Donc c'est vraiment un premier pas inédit, même si les associations travaillant pour la solidarité internationale auraient voulu qu'on aille un peu plus loin, ce qui était prévu sur le premier projet de loi qui avait été déposé et retoqué en commission des lois. Et
oui, là, le problème de la preuve, je crois.
Oui, alors, voilà, deux points un petit peu en recul par rapport à la première proposition. C'est d'abord le seuil
des
salariés, le seuil de l'entreprise, effectivement. Il faut que l'entreprise, pour être mise en cause, dispose de 5 000 salariés en France et 10 000 dans le monde.
Oui.
Ou 10 000 dans le monde, donc ça fait beaucoup. Oui. Ça veut dire qu'un certain nombre de marques, y compris des multinationales, parce qu'il y a des multinationales qui ne sont pas forcément avec des milliers et des milliers de travailleurs, de salariés, donc vont échapper, et notamment c'est le cas dans le textile, vont échapper à la mise en cause.
Et notamment Camailleux, sur le drame du Rana Plaza, il ne sera pas concerné par cette proposition de loi, puisqu'il n'atteint pas le seuil critique, le seuil de 5 000 salariés ou 10 000 salariés.
Alors ça, c'est effectivement le premier point. Et le deuxième point qui nous chagrine, enfin qui est en recul par rapport à la première mouture, c'est la charge de la preuve qui continue à incomber aux victimes et non pas à la multinationale. Autrement dit, ce sera toujours aux victimes à prouver le lien de cause à effet entre le dommage et la responsabilité de l'entreprise.
On est toujours sur la lutte de David contre Goliath, quoi, puisque, comme tu l'as dit, Pierre, c'est vraiment la victime qui doit prouver la faute de l'entreprise et le lien de contrôle entre la maison mère et ses filiales et sous-traitants. Donc ce sera la victime
de faire
cette
preuve. C'est un premier pas, mais il y a encore beaucoup à faire.
Je suis d'accord avec Claude, il faut saluer, c'est quand même une première avancée intéressante et importante, qui va permettre quand même d'amorcer un processus. Oui. Je crois qu'il faut rappeler que ce texte se réfère aussi à des principes directeurs de l'ONU, parce que on est un petit pays ou un grand pays que chacun apprécie, mais en tout cas, on est loin d'être seul, évidemment. Et donc, il faut comprendre que cette affaire-là a une dimension mondiale. Et, et bien, précisément, au niveau mondial, l'ONU en 2011 a émis des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits humains, qui a trois principes, protéger, prévenir et respecter.
Et réparer. Et réparer, oui.
Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une triple obligation, celle des États de protéger les travailleurs et les droits humains, celle des entreprises de respecter la réglementation et ses droits humains aussi, et ensuite la réparation pour les victimes. Donc, ces principes directeurs, bien sûr, n'ont pas, comment dire, ce sont des principes, ce sont des incitations, il n'y a pas de sanctions derrière, mais ils sont quand même porteurs de valeurs et d'un processus de dynamique tout à fait intéressant et important pour permettre une prise en compte des droits humains bien meilleure que ce qu'elle n'est actuellement.
D'autant plus qu'après l'adoption donc, de ces principes directeurs en 2011 aux Nations Unies, il y a deux pays, l'Équateur et l'Afrique du Sud, qui ont proposé donc depuis juin un groupe de travail, une résolution visant à créer un groupe de travail chargé d'élaborer un traité contraignant sur les entreprises et les droits humains. Absolument. Et il faut dire que bon, ça va être un processus qui risque d'être long, qui va prendre plusieurs années. Pour la France, avait des réticences à rentrer, quand même, il faut le rappeler, à rentrer dans ce groupe de travail. Et finalement, elle va y rentrer comme observateur. Mais bon, c'est à nous de faire en sorte que les grands pays se saisissent de cette proposition de façon à ce que le respect des droits humains puisse être défendu.
Oui. Et tu as tout à fait raison. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté donc le 20 juin de l'année dernière une résolution pour l'adoption d'un instrument juridique contraignant.
Oui.
Autrement dit, pour réglementer les activités des sociétés transnationales.
Bah oui,
donc on
très
est en plein
important.
Dans le sujet.
Oui.
Et
tout à fait.
La question, c'est l'instrument juridique contraignant.
Oui.
Eh bien, il y a eu 20 voix pour, 14 contre, dont les USA et la France
contre.
Il faut le dire.
Merci de le dire.
Voilà. Ah oui, non, mais il faut le dire, parce que c'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux. Voilà. Donc, et très abstention. Alors, la France devrait s'honorer à revenir sur cette position.
Elle va revenir.
Et à travailler.
Nous l'espérons.
Nous l'espérons.
Voilà, comme le temps passe, eh bien, je vais vous demander tout de suite de prévenir nos auditeurs de ce que vous avez préparé pour le 24 avril.
Alors, le 24 avril, il y a deux choses qui vont se passer. La première, à 17h, place de la Comédie, il va y avoir une opération de rue qu'on appelle « Faire le mort ». C'est-à-dire qu'on va s'allonger par terre, quelques militants vont s'allonger par terre, enveloppés de draps, pour symboliser
la catastrophe
du Rana Plaza, pour rappeler cette catastrophe, et quelques autres vont répondre aux demandes des passants et interpeller un petit peu les passants sur ce sujet. Bon, ça c'est une action de rue ponctuelle, et ensuite à 18h au cinéma Le Diagonal, rue de Verdun, nous allons passer l'excellent documentaire de Catherine Ginsburger sur les damnés du low cost, qui précisément part à la.
Ouais, c'est une enquête sur
c'est
les lieux.
C'est une enquête sur les lieux, avec des militants de notre collectif Éthique sur l'étiquette. Donc, on voit très bien dans ce documentaire la situation actuelle après ce drame. On voit des victimes, des ayants droit, on voit des syndicalistes, on voit même des patrons. C'est époustouflant comme témoignage, il faut bien le dire. Et ça pose très bien les problèmes et ça débouche sur l'action d'un certain nombre de députés, précisément, qui préfigurent le dépôt de la proposition de loi dont nous avions parlé à l'instant.
Alors, ce film, bien sûr, sera suivi de débats.
Oui.
Alors, qui participe à ce débat?
Voilà. Alors, il y a effectivement un débat à la suite de ce film. Donc, participe au débat Nicole Nouriga pour la Marche mondiale des femmes, le député Jean-Louis Roumégas, Europe Écologie Les Verts, qui soutient la proposition de loi, également Claire Hart, qui est présidente de FAS Héros, la fondation Agir contre l'exclusion de l'Héros, et moi-même du collectif Éthique sur l'étiquette.
Alors, Facero a fait tout un travail sur la responsabilité sociale des entreprises oui. sur le plan local.
Oui, tout à fait. Ils sont très actifs et nous les soutenons. Enfin, nous sommes tout à fait favorables à la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Ce que nous disons, c'est que ça ne suffit pas. Mais tous les efforts faits par les entreprises pour aller dans ce sens-là sont à saluer et à encourager, bien entendu.
Alors, le film, donc, c'est à quelle heure exactement?
Alors, c'est à 18h, de 18h à 20h, donc le vendredi 24 avril.
Au cinéma Le Diagonal. Et vous allez faire signer des pétitions aussi au public. Alors, quelles pétitions?
Alors, une première pétition, qui est la pétition des multinationales hors jeu. Donc, c'est une pétition qu'on peut également trouver en ligne. C'est une pétition du CCFD Terre Solidaire, avec trois thématiques. La première thématique qui nous concerne directement et qui est l'objet de cette action de rue, c'est encourager le vote de la proposition de loi française pour le devoir de vigilance des sociétés mères et donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants. Donc cette proposition de loi qui a avancé, hein, puisqu'elle a été, comme tu l'as très bien expliqué, Pierre, on attend maintenant que le Sénat s'en saisisse de façon à ce qu'elle puisse davantage avancer. Et sur cette des multinationales hors jeu, il y a également une demande concernant les ressources naturelles issues des zones de conflit. Mais c'est quelque chose de très particulier. Et la troisième demande sur cette pétition des multinationales hors jeu concerne également l'évasion fiscale, la transparence financière, etc. Les paradis fiscaux. Donc trois thématiques dans cette pétition des multinationales hors jeu.
Tout à fait important. Et alors, la nôtre, celle du collectif Éthique sur l'étiquette en tant que tel, c'est vivre de son travail, c'est vital. Donc là, c'est un soutien à cette campagne menée par l'Alliance asiatique pour un salaire vital, justement, que nous soutenons totalement. Alliance qui est de syndicalistes et d'ONG dans divers pays d'Asie. Donc c'est simplement une pétition pour dire que nous souhaitons, nous voulons que les travailleurs, les femmes et les hommes qui fabriquent nos vêtements gagnent un salaire leur permettant de nourrir leur famille, de se loger, de se soigner, de vivre dignement. C'est ça un salaire vital, c'est ce qui permet de vivre dignement. Donc, encore une fois, qui est un salaire au-delà des salaires minimums qui existent actuellement dans ces pays.
Alors, il faut dire que dans cette entreprise-là, pour dénoncer l'attitude des multinationales, il y a aussi d'autres mouvements qui se sont engagés, comme Peuple Solidaire, comme Amnesty International. Et puis, j'aimerais que vous rappeliez à nos auditeurs les sites, justement, où on peut trouver tous les renseignements et pouvoir signer des pétitions. Vous l'avez dit tout à l'heure pour hors-jeu.
Oui, le site du CCFD Terre Solidaire pour hors-jeu, la pétition hors-jeu. Alors, il faut quand même signaler, je ne sais pas si c'est le lieu, il y a une initiative citoyenne européenne qui est en cours sur neutralisons les sociétés écrans. Donc, les personnes qui veulent effectivement s'engager au niveau européen par rapport à ça, cette demande, peuvent également trouver sur Internet où signer cette pétition, cette pétition, mais au niveau européen. Parce que pour que la Commission européenne se saisisse de cette problématique, il faudrait qu'on puisse recueillir 1 million de signatures sur 7 pays.
Et la pétition sur le salaire vital, on le trouve sur le site de l'éthique sur étiquette, éthique-sur-étiquette.org.
Voilà, et bien merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que le rassemblement pour manifester sur cette catastrophe du Rana Plaza sera à 17h. Place de la Comédie.
Oui. Devant l'Office du Tourisme.
L'Office de Tourisme.
Donc, vous pouvez venir avec votre drap si vous voulez vous étendre.
Oui, tout à fait. Et on compte sur le soutien de tous les passants, enfin de tous ceux qui sont sensibilisés à ces problématiques et qui soutiennent les actions des associations de la société internationale et du collectif Éthique sur Étiquette.
Alors, je termine. Tant pis, nous ne passons pas le morceau de piano qu'avait porté Pierre. Je termine avec le calendrier. Vendredi 24 avril aussi, Il y a également quelque chose qui se passe à 19h au bar Le Dôme, boulevard Gambetta, à Montpellier. C'est le café littéraire de Coup de Soleil. Une rencontre avec Hadza Filali, auteure tunisienne. Lecture et entretien autour de ses romans. En présence de Janine Gladia, auteure de Femmes et Révolutions en Tunisie. Et d'ailleurs, Coup de Soleil présente le samedi 25 avril à 17h à la médiathèque de l'Odève, square Georges Auric, aussi une rencontre avec Hadza Filali, suivie d'une signature organisée par la librairie Un Point Un Trait. Et puis, le prochain café actualité du Centre Documentation Tiers Monde a lieu le mardi 28 avril de 12 à 14h à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. Le thème est « Le retour du Forum de Tunis et convergence des luttes » avec les témoignages des participants, Annie Grossman d'Artisans du Monde, Sébastien Martarech des Petits Débrouillards et Jacqueline Balvé d'Attaque. Alors il y aura également des militants qui ont assisté, participé à ce Forum du Tunis et qui viennent même d'Uzès et qui pourront apporter leurs témoignages dans le débat. Et Survie Languedoc-Roussillon vous invite aussi mercredi 29 avril à 19h30 à la salle Pétrarque, 2 place Pétrarque à Montpellier, à un débat pouvoir politique, militaire, économique, qui dirige en Afrique, avec Fabrice Tarit, qui est le président de Survie, et c'est organisé bien sûr par Survie Languedoc-Roussillon. À bientôt, chers auditeurs. Merci au collectif de l'éthique sur l'étiquette.
Merci.